France Culture.
Si vous avez l'impression qu'il vous en coûte parfois de sourire à vos collègues et de faire un brin de conversation dans les couloirs de votre entreprise, s'il y a des jours où être aimable a un prix, c'est normal. Il s'agit bien là d'un véritable travail. C'est ainsi que l'analyse la sociologue américaine Harley Russell Hochschild. Elle dit d'ailleurs que nous sommes tous à cet égard un peu des hôtesses de l'air, professeure désormais émérite à l'Université de Californie à Berkeley. Harley Hochschild a étudié de près la façon dont les sentiments sont progressivement devenu, dans le contexte d'une économie de plus en plus tertiaire, de véritables marchandises. Si les corps sont de moins en moins au travail, les affects, les émotions, elles sont de plus que jamais mobilisées et vues comme des compétences en soi. Or, faire bonne figure s'apprend, c'est une question d'éducation, certes, mais aussi une question de formation dans le cas de certaines entreprises qui font du sourire de leurs employés un véritable argument de vente. C'est le cas notamment des compagnies aériennes où les hôtesses de l'air sont soumises à des injonctions spécifiques et où les normes de genre sont une source de profit pour les employeurs, à condition bien sûr de savoir les exploiter. C'est ce travail émotionnel révélateur d'un tournant du capitalisme et d'une plus grande confusion aussi entre sphère privée et sphère professionnelle qu'Harley Hochschild a mis en lumière. Ce travail pionnier est donc au cœur de notre émission du jour, programmée par Bruno Barada, préparée par Paul Weinarter, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Grégory Wallon. Et deux invités sont avec nous aujourd'hui. Cécile Thomé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue chargée de recherche en sociologie au CNRS et au sein du centre Maurice Alvax, le HESS-ENS. Vous avez participé avec Salomé Fournet-Fayas à la traduction en français d'un ouvrage majeur et dont il va être beaucoup question aujourd'hui d'Harley Hochschild, Le prix des sentiments au cœur du travail émotionnel, publié donc en 2017 aux éditions La Découverte. Gwenaëlle Vincent, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes sociologue également, chercheuse au CNRS à l'Institut des recherches interdisciplinaires en sciences sociales, l'IRISO. Votre ouvrage sur le trottoir, l'État, la police face à la prostitution, apparu en 2021 aux éditions du Seuil. Alors pour commencer, je vous propose d'écouter la voix d'Harley Hochschild lors d'une interview donnée au Centre de culture contemporaine de Barcelone en 2009.
It's the labor of attuning.
Le travail émotionnel, c'est adapter ses besoins à ceux des autres et de ressentir de l'empathie pour les besoins de l'autre, ce qui est différent de l'écoute. On peut savoir ce qu'une personne ressent sans se soucier de cela. L'harmonisation, c'est donc s'ajuster et se soucier de l'autre, tout en gérant ses propres émotions dans le cadre d'un service dans lequel on doit offrir cette empathie. Ce qui m'intéresse et m'inquiète, c'est le travail qui se cache sous le travail. Par exemple, en Espagne aujourd'hui, une nourrice espagnole, au cours de sa journée, s'inquiète de voir le chien s'enfuir ou l'enfant être malade. Elle met ses préoccupations de côté pendant qu'elle s'occupe de l'enfant. Mais qu'en est-il d'une nourrice philippine qui a laissé ses 3, 4 ou 5 enfants au pays? Cela reste dans un coin de son esprit. Elle doit gérer un sentiment de perte, de déconnexion, d'isolement. C'est donc un travail supplémentaire ajouté au travail émotionnel. Je pense qu'il est nécessaire d'examiner à la fois le nombre croissant de métiers dans le secteur des services qui exigent un travail émotionnel et l'intersection entre ces métiers et les vies des individus, ainsi que le système qui façonne leur vie.
Harley Russell Hochschild naît en 1940 à Boston et cette indication biographique est importante dans le sens où on comprend qu'elle assiste à un tournant économique majeur. Les États-Unis deviennent une économie de service. service. C'est le cas au début des années 80 lors de la parution de son ouvrage The Managehort Commercialization of Human Feeling, traduit donc en français par Le Prix des Sentiments. Et la tendance de cette tertiarisation s'est accélérée puisque lorsqu'elle écrit la préface de la nouvelle édition de son ouvrage en 2011, la plupart du secteur industriel dans le PIB américain représentait 20,6% du PIB, alors que la part des services atteint, elle, 78%. C'est un mouvement qui est acté. Gwenaëlle Mincent, dans quelle mesure on peut voir là un des apports majeurs aussi d'Arlie Hochschild, c'est d'avoir su saisir cette transformation du travail en tant que sociologue. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'elle se détache, qu'elle s'identifie en tant que sociologue du travail qui a su capter cette transformation-là?
Alors, il me semble qu'elle... Effectivement, c'est à peu près ce qu'elle réussit à capter. Surtout, elle va en avoir l'intuition. Et puis, ce dont elle a l'intuition dans les années 80 va se révéler encore plus fort dans les années... En 2011, quand elle publie une seconde version de son ouvrage. Et puis, c'est plus généralement quelque chose qui va être observé, étudié par la sociologie du travail au cours de ces 30 années qui séparent quasiment la première et la 20 années plutôt qui séparent la première et la deuxième édition. C'est surtout, enfin, et ce qui est intéressant chez Hochschild, c'est que relativement à une étude, on va dire, des transformations du monde de l'emploi, de la structure de l'emploi, elle va s'intéresser à ce que ça fait aux individus et à ce que ça fait à leur intériorité que de ne plus avoir un travail qui est avant tout centré sur le corps, mais sur un travail aussi où il y a beaucoup de travail sur soi, sur ses émotions, sur son intériorité. Et il me semble que c'est comme ça qu'elle propose une autre analyse de l'histoire des transformations du capitalisme contemporain.
Donc on le comprend, Arlie Hochschild a une nouvelle vision, elle s'aventure, on va dire, sur des terrains et des terrains théoriques que les autres sociologues du travail n'avaient pas forcément pris en compte jusqu'ici, en tout cas dans les années 80. Elle cite notamment un auteur dont nous avons beaucoup parlé ici, Entendez-vous l'écho, Harry Braverman, où il est beaucoup question de la division des tâches au travail, mais beaucoup moins de la place des sentiments. Cécile Thomé, justement, et on l'entendait dans cette interview, Arlie Hochschild met au cœur de son analyse ce fameux travail des émotions, ce fameux travail des sentiments. On verra que les deux sont plus ou moins équivalents chez elle. Mais en quoi est-ce pionnier véritablement? Est-ce qu'au moment où elle met ses sentiments au cœur d'un processus de travail, elle est pionnière à cette époque-là?
Oui, ça va être quelque chose de pionnier parce qu'en fait, c'est un petit peu ce que disait Gwenaëlle. Ce qui va se passer, c'est qu'on est à une époque où on est vraiment centré sur la manière dont on effectue le travail. Il y a beaucoup d'observations du travail ouvrier, du travail à la chaîne, mais avec le développement du secteur des services, on continue à étudier ce qui se passe au niveau des corps, mais ce qui est complètement invisibilisé, c'est ce que ça fait aux émotions et donc ce que ça peut faire au rapport à soi. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. En fait, ce qui va être intéressant dans le travail d'Hochschild, c'est qu'elle va permettre de rendre visible, de rendre discible quelque chose que beaucoup de gens font, mais qu'ils n'ont pas forcément conscience de faire. Le cas le plus typique, c'est celui des hôtesses de l'air. Et quand elle va étudier les formations d'hôtesses de l'air, et puis qu'elle va les suivre ensuite dans les avions, etc., mais surtout dans son étude des formations, elle va se rendre compte qu'on ne leur dit pas juste « il faut connaître les gestes de premier secours, savoir mettre un gilet, apporter les plateaux ». Ce qu'il faut faire aussi, c'est avoir l'air toujours de bonne humeur, être toujours en train de sourire. Si un passager vous parle de manière négative, il faut que vous répondiez de manière positive, il faut le faire se sentir bien, se sentir mis en valeur, et donc il faut finalement votre instrument de travail principal, certes c'est votre corps, mais c'est aussi l'image que vous allez dégager. Et ça, c'est quelque chose qu'on laissait complètement de côté, et quand on invisibilise quelque chose, ça veut dire aussi qu'on lui accorde pas d'importance, et elle va montrer que finalement c'est quelque chose qui a de l'importance et qui, en tant que tel, peut être marchandisé. Et à partir de là, on va voir se développer des études d'autres professions qui vont bien montrer à quel point ce travail sur les sentiments, qui peut être un travail positif comme pour les hôtesses de l'air ou négatif comme pour les agents de recouvrement qu'elle étudie, c'est quelque chose qui devient de plus en plus central dans ce qu'on attend des gens dans le cadre du secteur des services.
Alors justement, Cécile Thomé, j'allais vous poser la question. On va beaucoup, beaucoup parler du prix des sentiments parce que c'est notamment un des rares, le seul d'ailleurs, ouvrage traduit en français d'Arlie Hochschild en 2017, je le rappelle. C'est donc une étape majeure aussi pour la discipline sociologique. Cette idée de comprendre ce que ça implique que d'avoir affaire à des gens beaucoup plus qu'à des choses désormais dans notre économie actuelle. Globalement, est-ce que la raison aussi pour laquelle vous avez choisi de traduire le prix des sentiments et la raison pour laquelle on s'y intéresse peut-être majoritairement, c'est parce qu'il irrigue tout le travail d'Arlie Hochschild ensuite? Est-ce qu'on retrouve cette thématique-là dans tous ses autres ouvrages? Et si oui, comment cela a infusé de façon très concrète dans ses autres thématiques de recherche?
Oui, c'est le deuxième ouvrage d'Arlie Hochschild, mais c'est le premier ouvrage important. Et alors, d'une part, ça va irriguer son travail, je vais y revenir, mais d'autre part, ça irrigue toute la sociologie du travail américaine et dans une moindre mesure française, ça aussi on pourra en discuter, ça a mis plus de temps à arriver parce que justement c'était pas traduit. Les premières traductions d'Hochschild, elles datent du début des années 2000. Il y a un article qui est traduit en 2003, on commence déjà à avoir des choses, mais c'est le premier ouvrage qui est traduit. Et en fait, au moment où cet ouvrage, enfin où l'idée de traduire cet ouvrage va apparaître au milieu des années 2010, c'est Bernard Lahir qui est à l'initiative de cette traduction. Et l'idée, quand on est contacté avec Salomé par Bernard Lahir et la maison d'édition, c'est potentiellement de traduire son dernier ouvrage qui est plutôt sur la montée de l'Amérique trumpiste
oui, et pas très récent, qui lui est beaucoup plus récent.
Il y a deux ouvrages, ouais. Il y en a un de 2024 donc on pourra reparler effectivement, et puis même avant ça il y en a un qui doit dater de Strangers in their Own Land, ça c'est 2016, qui était déjà voilà, qui montre comment la peur va avoir un effet sur la droite américaine. Est-ce que ça va faire même dans cet ouvrage qui est quand même assez loin, parce qu'on est plutôt dans la sociologie qui devient politique, même si c'est toujours au niveau des populations, elle s'intéresse toujours aux gens, Arlie Hochschild, on pourra y revenir. Mais finalement, on a convaincu la maison d'édition d'éditer le premier. Pourquoi ? Parce qu'on est sociologue. Et ce qu'on voulait, c'était que la base théorique de sa pensée puisse être accessible au plus grand nombre, et en particulier accessible dans le champ académique. Donc, de notre point de vue, c'est une réussite parce que ça a permis qu'elle ait une plus grande postérité en France. Après, commercialement, je ne sais pas si c'était vraiment le bon move, mais en tout cas, en tant que sociologue, on est très content. Donc, Le prix des sentiments, qui est son premier ouvrage sur le travail émotionnel, elle va continuer ses recherches ensuite en s'orientant vers la sociologie de la famille et le lien entre famille et travail. Elle est toujours entre les deux, avec un ouvrage qui est très très important aussi aux États-Unis, qui n'est pas traduit, qui s'appelle The Second Shift, la double journée, où là, elle va montrer que finalement, on est en 89, dans un paysage américain où les hommes et les femmes travaillent désormais tous deux, travaille avec un salaire, hein, parce que les femmes ont toujours travaillé, évidemment, mais elles n'étaient pas forcément payées pour ça. Donc, dans un paysage où les hommes et les femmes travaillent, ce sont toujours les femmes qui s'occupent du care, donc qui s'occupent des enfants, qui s'occupent du ménage, qui s'occupent de la cuisine, etc. Elle continue dans son ouvrage suivant, 10 ans plus tard, The Time Bind, pour en essayant de regarder à quel point cette difficulté à concilier travail et famille va être à la source de culpabilisation, en particulier des femmes, mais pas seulement. Et ensuite, on arrive sur un article qui est vraiment important, qui est évoqué d'ailleurs dans l'extrait qu'on a évoqué, que vous avez fait écouter, pardon, celui des nounous philippines, avec un article qui s'appelle Love and Gold, et où c'est justement essayer de comprendre en fait tout ce care que les femmes américaines doivent faire quand elles n'arrivent plus à le faire, parce que sinon ça fait trop de choses, et elles demandent à d'autres de le faire à leur place, et c'est qui le cas qu'elle va choisir d'étudier, c'est les nounous philippines. Et donc là, qu'est-ce que ça fait, ce transfert de care, comment elles gèrent elles-mêmes leurs propres enfants qui sont restés au pays. Donc on voit que finalement, on arrive à une sociologie des migrations, alors qu'on était parti d'une sociologie comme ça, des émotions. Et puis, elle va continuer ça en se disant, mais en fait, cette frontière de ce qu'on peut... la frontière du marché, en fait, de ce qui peut ou non relever du marché, jusqu'où elle va. Et dans son ouvrage de 2012, The Outsourced Self, l'externalisation de soi, elle va étudier, cette fois-ci, les wedding planners, les coachs de vie, les mères porteuses, les organisatrices d'anniversaires pour enfants. Donc, pour essayer de voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller externaliser des choses qui semblent relever de nos émotions privées.
Gwenaël Mincent, on a compris que l'œuvre d'Arlie Hochschild est finalement assez vaste. Elle est certes diverse, mais on voit bien qu'il y a un fil rouge qui tient aussi cette pluralité d'œuvres. C'est évidemment celui, on l'a dit, de mettre les gens, on va dire, au cœur de son analyse. Juste pour qu'on comprenne bien ce qu'elle représente aussi dans un champ peut-être plus académique. On l'a dit, il est question de sociologie du travail, de sociologie des émotions. Dans quelle mesure, on peut le dire, qu'elle a fondé un courant à elle toute seule? Est-ce que c'est une façon de s'approprier de la sociologie économique, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau qu'elle incarne là?
Et notamment en termes de reconnaissance par ses pairs, parce que j'imagine que ça passe aussi comme ça, la façon de former un mouvement sociologique.
Alors moi, je pense que je raconterai l'histoire un peu différemment de vous, même si votre manière de le raconter me donne à réfléchir à la manière dont d'ailleurs je vais le raconter. Et probablement qu'on pourrait dire que... On a raison toutes les deux. Il me semble qu'Orchild, elle arrive... Alors, il faut comme... Alors, je vais plutôt parler de sa réception française que sa réception américaine. Sur la réception américaine, je laisserai plutôt Cécile, si elle le souhaite, compléter. Il me semble qu'en France, en fait, autour de la question du travail comme activité sociale, en fait, la question des émotions, elle est pensée, mais plutôt en psychologie. Et il faut savoir qu'en France, on a quand même une discipline, enfin, on a quand même une histoire des disciplines sociologiques et psychologiques qui est très séparée. Et donc, en fait, les émotions, ça veut pas dire qu'elles sont absentes hein, de la sociologie, mais en tout cas, elles apparaissent plutôt comme étant le domaine de la psychologie. Et de fait, dans ce qui est l'attention prêtée par les sciences sociales, les humanités, au travail, en fait, il y a une psychologie du travail, une psychologie clinique du travail, en fait, qui va se développer et qui va prendre en compte cette question des émotions, des stratégies collectives de défense. Donc, je peux penser aux travaux de Pascale Molinier, qui va être aussi une des passeuses de la sociologie du care en France, enfin, des réflexions sur le care, puisqu'elle est plutôt psychologue du travail. On peut penser aussi aux travaux de Yves Clos sur les questions... Donc, psychologue aussi du travail, mais qui est aussi sur des questions de masculinité et émotions au travail, et qu'est-ce que ça produit, comment ça participe de l'organisation du travail, etc. Donc, il y a plutôt, en fait, il y a déjà un intérêt pour les émotions. Je ne saurais pas dire exactement s'ils ont lu Orchild, mais en tout cas, ils pensent déjà ces questions-là, mais ils les pensent en psychologue, et c'est vrai que ça, il n'y a pas forcément de perméabilité avec la sociologie du travail, qui, en France, historiquement, est plutôt une sociologie marxiste, etc. Et donc, du coup, ce n'est pas les mêmes modes de raisonnement. Et donc, Orchild, comme le disait Cécile tout à l'heure, elle est finalement traduite en 2003 dans un numéro de travail, de la revue Travailler. Du coup, dans un papier où, justement, elle essaye de voir comment les sciences sociales, la psychologie, etc. ont traité la question des émotions. Et elle propose une première manière de les penser en tant que sociologue. Et donc, là, ça va occasionner une première étape de la réception, mais il faut voir que c'est une réception qui se fait surtout en pensant des métiers donc de service, comme on l'a dit, et des métiers féminisés, alors que l'œuvre d'Orchild, en réalité, elle porte aussi sur les hommes, mais ça, c'est pas la première manière dont ça va rentrer. Mais donc, du coup, elle rentre, on va dire, par la petite porte au début des années 2000 à travers cette première traduction, plutôt dans une réflexion, effectivement, sur les métiers de service à la personne. On a les prémices aussi de l'importation des théories du care, etc.
Mais ce qui est intéressant, Gonelle Vincent, et d'ailleurs vous l'avez mentionné dans votre réponse et sur la place aussi de l'analyse marxiste, ce qui est intéressant, c'est que Arlie Orchild, dès le début de son ouvrage Le prix des sentiments, et puis on rentre là aussi plus directement dans le vif du sujet aussi, elle s'en réfère à Marx et à sa conception de l'humain, de l'individu comme instrument de travail, de la même façon qu'un ouvrier. Alors en l'occurrence, elle prend l'exemple d'un enfant qui travaille dans une usine de papier peint, de la même façon voilà, qu'un ouvrier met son corps au service de la production capitaliste, de fait, il met ses bras, ses mains, donc une partie de lui-même à ce service-là. C'est un peu la même chose pour les salariés des secteurs tertiaires, du service. Et là, pour le coup, elle prend l'exemple des hôtesses de l'air. Elles doivent mettre leurs émotions au service de leurs employeurs. Mais il y a tout de même un fil commun entre Marx et Orchild, qui est celle de l'exploitation. En fait, c'est ça le caractère commun. Donc, il y a quand même une base... pas forcément marxiste, mais il y a quand même cette base au moins de sociologie économique ou d'héritage vis-à-vis de penseurs de l'économie aussi.
Ah oui, bien sûr. La question était... Enfin, j'essaie peut-être ma réponse visait plutôt à vous dire comment elle rentre en France. C'était pas pour dire... Effectivement,
c'est cette filiation.
C'était plutôt sur la filiation. Mais en réalité, effectivement, Orchild, elle est très marquée par Marx. Et effectivement, autour de cette question de l'exploitation ou de l'aliénation, hein, puisqu'une des choses qu'elle montre, effectivement, c'est que ces hôtesses de l'air qui vont effectuer ce travail émotionnel dont parlait Cécile, ces hôtesses de l'air, en fait, en produisant, en effectuant un jeu en profondeur, profondeur, en travaillant sur leurs émotions pour réussir à afficher de l'empathie, à se contenir quand elles ont des passagers particulièrement pénibles dans les avions, qu'il y a des turbulences, etc. Quand elles font ça, elles oublient elles-mêmes leurs propres émotions et elles se mettent au service de l'organisation, enfin là en tout cas d'une organisation capitaliste.
Alors reste à savoir pourquoi Harley Hirschfeld voit dans les attitudes et les injonctions à modifier sa personnalité ou en tout cas à contrôler ses affects, pourquoi elle y voit un sujet notamment pour la sociologie. Elle revient sur sa prise de conscience très tôt dans son enfance.
Je pense avoir commencé à m'intéresser à la manière dont les individus gèrent leurs émotions au moment où mes parents ont rejoint l'US Foreign Service. J'avais 12 ans et je me retrouvais souvent à faire passer le bol de cacahuètes parmi des invités. Je pouvais observer leurs sourires d'en bas. Et les sourires des diplomates apparaissent très différents à hauteur d'enfant. Après les soirées, j'écoutais mes parents discuter des comportements des uns et des autres. J'ai ainsi appris que le mince sourire de l'émissaire bulgare, le regard détourné du consul chinois ou encore la poignée de main prolongée du chargé d'affaires de l'ambassade française ne relayaient pas simplement des messages d'une personne à l'autre, mais bien de Sofia à Washington, de Pékin à Paris ou de Paris à Washington. Je me demandais si j'avais fait passer les cacahuètes à une personne ou bien à un acteur. Où finit la vraie personne? Où commence le jeu d'acteur? Et de quelle manière sont-ils liés?
Cécile Thomé, ce milieu de diplomate dans lequel Harley Hirschfeld grandit est extrêmement important pour elle. Elle le dit, le simple fait d'avoir une personnalité ne fait pas de quelqu'un un diplomate, de la même manière qu'avoir des muscles ne suffit pas à faire un athlète. Finalement, la mise en scène de soi fait partie des compétences requises chez les diplomates plus que dans d'autres professions. En quoi c'est une observation fondamentale pour Harley Hirschfeld?
Oui, c'est une observation très importante parce qu'elle va se rendre compte que tout le monde, dans le milieu dans lequel elle évolue, donne à voir une certaine image de soi qui n'est pas forcément l'image de soi qu'il ressent, enfin qui n'est pas forcément la manière dont ce qu'il ou elle est en train de ressentir à ce moment-là. En fait, ce qui est très intéressant dans cet extrait, c'est qu'elle parle de l'idée d'un jeu d'acteur qu'elle a vu se développer au quotidien autour d'elle au cours de son enfance, surtout son adolescence en tant que fille de diplomate. Et quand elle va commencer à théoriser, à essayer de comprendre un petit peu ce qu'elle voit chez les hôtesses de l'air, théoriquement, alors elle va s'appuyer sur différents courants théoriques. Mills et Goffman, d'abord, du côté vraiment de la sociologie. Alors, Goffman, c'est important parce que la mise en scène de la vie quotidienne, on voit qu'on est déjà dans ces questions de mise en scène, mais aussi sur Freud, avec l'idée de fonction de signal de l'angoisse, donc l'idée que nos émotions veulent dire quelque chose, donc si on les couvre, qu'est-ce que ça fait, et donc d'un danger potentiel. Et puis sur Darwin, avec l'idée qu'il y a quand même une dimension de pulsion dans nos émotions, et donc est-ce que c'est ces pulsions-là sur lesquelles il faut retravailler derrière. Il y a l'idée chez Hirschfeld de quelque chose un peu à deux temps, avec un premier temps une émotion qui surgirait, et dans un second temps, voilà, comment on la gère, et elle, c'est ce second temps qui l'intéresse. Et alors, comment on le gère, et c'est là que j'en reviens au jeu d'acteur, il y a tout un chapitre dans son ouvrage où elle va s'intéresser à un livre qui s'appelle « La formation de l'acteur » de Stanislavski, qui est un livre classique pour les personnes qui veulent être acteurs ou actrices. Et à partir de là, elle va distinguer deux manières de jouer sur scène. D'abord, jouer en surface, c'est-à-dire modifier son apparence, sa gestuelle, son expression, et ensuite jouer en profondeur. Et jouer en profondeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire réussir à induire un sentiment réel. Quelque chose qu'on apprend dans des écoles d'acteurs, si vous voulez pleurer, il ne faut pas se forcer à pleurer, il faut penser à un truc vraiment triste. Donc, elle va se dire, donc il y a deux choses comme ça, et dans la vie, on peut faire l'un ou l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est ce jeu en profondeur qui constitue véritablement le travail émotionnel, parce que si on fait un métier de service et qu'on fait simplement un jeu en surface, ce qu'elle dit, c'est qu'il va y avoir une difficulté à maintenir ce jeu en surface sur la longueur. Si on n'a pas du tout envie de sourire et qu'on se force à sourire toute la journée, bah, c'est vraiment pénible. Alors que si on est vraiment content d'être là, bah, c'est pas si difficile que ça de sourire.
C'est pénible et ça se voit aussi, et or c'est ce qu'elle dit qui est très intéressant, qui permet de encore mieux comprendre, c'est qu'un moment où on voit l'employé se forcer à sourire ou voir que c'est effectivement que de façade, on va revenir sur ce terme, c'est de faire un mauvais travail en fait.
Exactement. Et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans quelque chose qui est une des bases du capitalisme. C'est qu'en fait, à partir du moment où on est dans un système tertiarisé, eh ben, il va falloir réussir à faire comme si, et la manière la plus facile de faire comme si, eh ben, c'est de ne pas avoir à faire comme si en fait. Donc finalement, c'est ça le plus simple.
J'aimerais bien qu'on évite les tensions, qu'on garde son calme. Je vous répète ce que je vous dis à chaque fois. Votre comportement, votre politesse, c'est la vitrine de la réception. Il y a 200 personnes ce soir, donc 200 juges. On a un client important qui nous a fait confiance pour qu'on lui organise un mariage clé en main. Alors on va lui montrer qu'il a eu raison de nous choisir. Okay. Donc je compte sur vous pour que ce soir, particulièrement, on fasse une belle soirée. Hein ? Des questions ?
Max, on est vraiment obligé pour les costumes là ?
Ouais, c'est ça qu'on voulait savoir.
Non, et puis le problème surtout, c'est les perruques là. Elles sont bizarres.
Ça sent bizarre.
C'est pas hygiénique. J'ai même pas ça sur la énorme.
On va pas passer toute la soirée avec ça sur la tête.
Attendez, ça, je l'ai toujours dit. Le costume de laquais, il va avec la perruque. Et au moins jusqu'au dessert. En plus, c'est prévu, il y a une prime de 47 euros.
Non, mais c'est pas une question de prime ou de pas prime, là. C'est juste que c'est à chelin.
Mais c'est pas évident d'aller servir un cocktail avec ses costumes ridicules. Il fait 50 degrés là-dessous, on va transpirer comme des bêtes.
Déjà, la dernière fois, c'était compliqué avec le...
47 euros, je la mets, la perruque.
Voilà un extrait du Sens de la fête, le fameux film d'Éric Toledano et Olivier Nakache sorti en 2017 où les employés d'une société d'événementiel gérée par Jean-Pierre Bacri et briefé, comme on dit, juste avant que la fête ne commence. Là, Cécile Thomé, ça nous offre aussi une petite passerelle vers les travaux suivants d'Arly Horchal, finalement, et pour bien comprendre aussi la place des sentiments qui sont à la fois source de contraintes, on l'entendait dans cet extrait, et puis il y a aussi un écho avec ce fameux jeu d'acteur, l'idée de remettre une perruque et un costume d'époque pour justement assurer tout simplement son salaire. Il y a une sorte de contradiction qui est mise en avant là. Et du reste, Arly Horchal, vous l'avez dit, elle va s'intéresser notamment au wedding planner, qui est le cas de Jean-Pierre Bacri, mais à tout un autre panel de professions. Vous l'avez dit, les nounous, les mères porteuses, les coachs de vie. Finalement, c'est quoi le point commun de toutes ces professions-là ?
Finalement, c'est des professions dans lesquelles on utilise ses sentiments, on fait de ses sentiments une ressource pour faire de l'argent. C'est-à-dire que il va falloir être vraiment enthousiaste pour le mariage des gens, alors Mère Porto, c'est un cas à part, parce que du coup, il y a en plus du corporel, évidemment. Mais du coup, organisateur d'anniversaire, c'est pareil. Nounou, c'est pareil. C'est des métiers où il est indispensable de réussir à marchandiser ses sentiments et donc de faire un travail sur soi pour apprécier au moins en partie ce qu'on est en train de faire, parce que sinon, c'est des métiers qui sont compliqués à effectuer. Et de l'autre côté du portefeuille, si l'on peut dire, il y a une espèce de frontière de marché avec du marché qui s'étend finalement avec des choses où on se dit finalement son propre mariage, on peut se dire que c'est forcément à nous de l'organiser parce que c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de non transmissible, la manière dont on veut rendre compte, voilà. Et on se rend compte que finalement, non, le marché l'organise aussi très bien et que le marché organise des choses de plus qui nous semblaient intimes à une époque et qui nous semblent plus si intimes que ça. On le voit très bien dans le soin aux personnes âgées aussi, où c'était des choses qui pouvaient être gérées en famille et c'est plus du tout le cas maintenant. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici vraiment se déplacer cette frontière du marché et on voit ce travail émotionnel qui se fait de plus en plus présent.
Gwenaël Mincent, vous-même, vous avez étudié parmi vos travaux de terrain ce travail émotionnel tel qu'il était mis en scène, mais aussi tel qu'il venait finalement assez spontanément. C'est l'objet de votre ouvrage que je citais en début d'émission. Pour reboucler avec peut-être les appuis théoriques d'Horchal, on a cité Mills, on a cité Goffman. Pourquoi finalement Horchal vous a été utile à vous dans vos travaux, à vous de terrain, et pourquoi Goffman, par exemple, alors même qu'il lui légitime tout à fait la place de ses sentiments, pourquoi lui ne suffisait pas ?
C'est une grande question. je vais juste préciser une chose et qui me semble a du sens pour la suite, c'est qu'en fait moi je venais de la science politique quand j'ai commencé mes travaux sur le contrôle de la prostitution par la police, et pour moi c'était une manière d'envisager, on va dire, une politique publique par le bas ou de commencer à envisager des formes de sociologie de l'État par le bas. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, on était moins sur la question, on va dire, de l'efficacité de l'économie capitaliste que de comment se met en œuvre le droit. Avec cette idée que le droit devrait être mis en œuvre, enfin une fiction, hein, mais devrait être mis en œuvre de manière universelle, dépassionnée pour tous et pour toutes par les agents de l'État. Et donc, moi, je travaillais sur ces populations finalement assez spécifiques, hein, qui étaient ces policiers dans les services des mœurs, qui allaient conduire des enquêtes de proxénétisme ou de traite, et donc qui allaient enquêter sur des proxénètes, des prostituées, il y allait avoir des témoins, il y allait avoir des suspects, etc. Et donc, j'arrivais avec des questionnements, en fait, assez classiques en sciences politiques sur comment se met en œuvre une politique publique, quand le cadre juridique présente un ensemble d'indéterminations, de contradictions, etc. Et je suis arrivée dans ces services de police où j'ai fait une ethnographie de plusieurs mois et j'ai été frappée par l'ensemble des émotions qui étaient déployées sous mes yeux par les policiers, c'est-à-dire que là où je m'apprêtais à voir comme, on va dire, les travaux d'autres collègues hein, auparavant, on va dire des guichets de l'État avec la mise en œuvre d'une norme juridique, etc., je voyais quelque chose qui avait peu de choses à voir en fait finalement avec le droit, qui était ce au nom de quoi les policiers intervenaient. Je voyais des situations, bah déjà il y avait voilà toute une ambiance de camaraderie virile assez gouailleuse entre les policiers eux-mêmes, ça on le savait déjà avec les travaux de Geneviève Pruvot, mais je voyais aussi toutes ces manières d'interagir avec ces policiers, ces proxénètes, ces témoins avec moi aussi, qui étaient voilà, un jeu sur la familiarité, le paternalisme, la séduction un peu légère. Je voyais aussi des situations où il y avait voilà, des moments de conflit, de colère assez prononcés qui pouvaient avoir lieu dans les auditions, des témoins qui pouvaient avoir lieu lors des interpellations. Et puis je voyais des moments où pouf, tout ça se retranchait derrière quelque chose de beaucoup plus calme, mesuré, distancié, hein, qui ressemblait plus à cette neutralité bureaucratique dont parle Max Weber et qui est un peu ce avec quoi j'arrivais. Et donc, je me suis retrouvée très désarçonnée face à tout ça. Et donc, j'ai cherché à y mettre du sens. Dans un premier temps, quand j'ai cherché à y mettre du sens, la manière de réfléchir par rapport à ce déferlement d'émotions, ça a été de commencer à penser ma propre position, puisque donc j'étais une jeune femme à l'époque, dans ce milieu d'hommes, hein, puisque j'aurais dû le préciser, dans ces services des mœurs, il y a moins de 10% de femmes. Et donc, j'ai commencé à penser cette question des émotions à partir de la place qui m'était octroyée dans ces services et ce que ça me permettait de comprendre du travail policier et de pourquoi il faisait certains trucs et il ne faisait pas d'autres choses. Et donc, comment je pouvais comprendre ces formes d'interprétation du droit. Et donc, j'ai commencé à écrire sur le rire dans la relation d'enquête et aussi sur le rire comme matériau d'analyse. Est-ce que ça peut avoir une portée heuristique si on ne veut pas faire juste de l'analyse de plaisanterie, mais qu'on veut vraiment comprendre ce que font les policiers? Ça a été une première étape, et à l'époque, j'avais pas Orchald encore entre les doigts. C'était compliqué, mais je pense, et d'ailleurs, je pense que ça dit quelque chose d'Orchald, cet extrait où elle raconte « Je commence à penser ces questions des émotions en pensant moi-même à la manière dont j'observe ce jeu dans ma vie personnelle, etc. » C'est-à-dire...
Oui, il y a la place de la première personne du singulier qui est très importante et qui voilà. Peut surprendre, effectivement, chez une sociologue.
Ouais, et donc moi, je pense que cette question arrive de la même manière, c'est-à-dire que je suis dans un milieu très gouailleur, très grivois, etc. Je suis une jeune femme dans un milieu d'hommes, et donc, au fond, tout ça me correspond peu, m'oblige à donc clairement effectuer tout un travail émotionnel sur moi-même pour tenter de me fondre dans la masse, ce que je réussis plus ou moins bien. Et dans un second temps, donc ça c'est dans un second temps, je vais essayer quand même de voir ce que ça fait aux policiers, ce que ça fait au travail des policiers, ce que ça fait. Ce que ça a fait à l'interprétation du droit, puisque c'était un peu ça qui me taraudait à l'époque. Et donc, je vais essayer de comprendre, en fait, en gros, est-ce qu'il y a des régularités dans ce qui se passe? Comment on peut commencer à catégoriser ça? Et effectivement, à l'époque, Erving Goffman est beaucoup plus connu qu'Orchild, hein, puisque moi, je fais ma thèse dans la deuxième moitié des années 2000. Et donc, effectivement, moi, j'ai les outils d'Orchild, hein, de Goffman dont parlait Cécile.
Et pas encore ceux d'Orchild qui
n'étaient pas encore ceux d'Orchild.
Et donc,
voilà. Et donc, je vais commencer à penser ça tout à partir de d'interactions, registres d'interactions. Je vais essayer de commencer à classifier ça dans des types d'interactions, essayer d'y affecter des formes d'émotions, etc. Et donc, voilà, ça commence à me permettre de décrire une première partie de ces choses-là, mais j'arrive pas à trouver complètement de manière satisfaisante de penser ça. Et donc, faut savoir, donc je reviens à mes premiers amours qui étaient la science politique et toute cette sociologie de l'institution qui se développe aussi à cette époque. On pensait beaucoup cette question des émotions à travers l'opposition entre le fait que les fonctionnaires se retranchaient derrière l'inflexibilité du droit et de la règle et le fait qu'ils personnalisaient leur rôle. Et moi, il me semblait que cette opposition, elle était un peu facile parce que toute cette personnalisation du rôle, elle pouvait être complètement mise au service de l'institution et surtout, elle prenait tellement de place que j'étais pas sûre que le retranchement derrière de la règle de droit était aussi peu dénué d'émotion que ça en avait l'air, enfin qu'il y avait un côté on-off. Dans certains cas, on fait comme si on était derrière le droit, dans d'autres cas, ah, on va personnaliser la chose. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai cherché à décrire, en gros, à la fois ces moments de contention émotionnelle, ces moments où justement on essaye d'apparaître le plus neutre, le plus dépassionné, le plus loin de ses publics, et ces moments où au contraire on va aller au contact, mettre en place des relations de familiarité avec donc ces prostituées, ces proxénètes, pour les faire parler, pour en faire des informateurs, des informatrices, pour les amener à produire des aveux, etc., ou pour tout simplement rendre son action efficace et dans d'autres moments, voilà, investir plutôt des registres autour de la colère. Et c'est comme ça que je me suis mise un peu de manière incidente à découvrir les travaux d'Orchel et en particulier ce fameux papier de la revue Travailler. Mais en fait, tout ça arrive très tardivement, mais aussi parce que je suis très frustrée des outils que j'ai.
Qui étaient à disposition et qui étaient initialement ceux d'Orchel. Vous l'avez dit, Gonel Mincent, vous vous intéressez à une catégorie professionnelle qui est plutôt masculine, dans une très large majorité. Ce n'est pas nécessairement le cas d'Arly Orchel, en tout cas ce n'est pas ça qui fait la spécificité justement de son premier terrain qui sont, on l'a dit, les hôtesses de l'air.
Je suis passée voir Rose pour lui demander si elle pouvait venir dîner ce week-end. Gigot au menu. Voulait me montrer gentille, lui rendre les dîners de rosbif au jus qu'elle avait apporté quand j'ai eu le bébé il y a un mois, avec l'ensemble blanc tricoté. Son air dans les nuages. Elle a raconté une nouvelle fois l'histoire du docteur et de l'œil de Percy. Elle a enchaîné. Percy avait téléphoné et réclamé un pull. Elle allait acheter le pull à Exeter vendredi, léger l'emmener voir Percy samedi. Je l'ai invitée à dîner dimanche. Elle a hésité, pris un air vague. Elle ne savait pas si elle irait, si elle était censée aller, dîner chez léger dimanche. Elle ne pouvait pas se permettre de refuser. Elle était dépendante d'eux pour aller voir Percy. Elle sait conduire. Mais pas la voiture qu'ils ont actuellement, elle est trop grosse. Je lui ai dit un peu sèchement que peut-être elle pourrait se renseigner et me tenir au courant. Consciente des limites de mon altruisme, accepte ma bon Dieu d'offre et sois reconnaissante.
Cécile Thomé, vous l'avez dit, tout l'enjeu pour Arly Orchel est de inscrire sa réflexion aussi dans ce qu'on pourrait appeler un jeu d'acteur, vous l'avez dit, alors parfois en surface, parfois beaucoup plus en profondeur, et surtout elle le dit elle-même, il y a ces deux plans-là, donc surface-profondeur, et aussi le plan privé et le plan beaucoup plus public qui est celui de la sphère du travail. Elle pose la question, que nous coûte la gestion des émotions et quel profit en tirons-nous dans la vie privée et au travail? Et là, et on revient sur cette idée d'un public beaucoup plus féminin, ou en tout cas de la question du genre qui est extrêmement importante pour Orchel. Dans quelle mesure, finalement, la raison pour laquelle elle s'intéresse notamment aux hôtesses de l'air, c'est aussi parce que les femmes, de façon générale, on va dire, transposent ce qui se passe au niveau privé dans la sphère du travail et dans cette espèce de jeu de mise en scène qui était là, mis en scène par Sylvia Plath dans un de ses extraits de Carnet intime.
Oui, je pense que pour comprendre pourquoi ce sont les femmes qui sont les plus aptes et celles dont on attend le plus de travail émotionnel, il manque peut-être un dernier élément théorique chez Orchel, c'est l'idée de règles de sentiment. Règles de sentiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des règles qui peuvent être plus ou moins formelles, qu'on attend que les uns et les autres suivent. Un enterrement, on attend que vous soyez triste. Un mariage, on attend que vous soyez de bonne humeur.
Et c'est ce qu'on voyait avec Sylvia Plath. On s'attend à ce qu'elle soit aimable avec sa voisine, malgré le fait qu'elle est très consciente de son altruisme limité, comme elle le dit.
Exactement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour comprendre un petit peu ces règles de sentiment, Orchel, elle va se concentrer sur la discordance qu'il peut y avoir entre ce qu'on ressent et ce qu'on est censé ressentir. Et en fait, là où on voit vraiment ces règles de sentiment, c'est dans les sanctions. Culpabiliser ou alors dire tu devrais être content pour elle, mettre tes deux enfants de 5 ans devant une galette avec une seule fève, forcément, celui qui ne l'aura pas, il va être moyennement content, et c'est le moment où on va lui dire « mais tu sais, tu devrais être content pour ton copain ». Et en fait, ça, c'est des règles de sentiment. Et qui sont les femmes qui s'occupent de ça qui sont les personnes qui s'occupent de ça? C'est beaucoup les femmes. Donc déjà, tout ce qui est éducation des enfants, c'est beaucoup les femmes. Et par ailleurs, ce sont c'est des femmes qu'on attend le plus qu'elles-mêmes modèlent leurs sentiments, gèrent leurs sentiments pour correspondre à un certain, à ces règles de sentiment, avec l'idée que finalement, une femme, on est vraiment dans de la sociologie du genre. C'est plus doux, c'est plus susceptible de s'adapter, alors que c'est moins le cas des hommes.
Et alors là, justement, Cécile Thomé, il faut nous aider à comprendre, parce qu'on pourrait se dire de façon très naïve, peut-être, se dire que, être aimable en société, être aimable aussi au travail, c'est quelque chose d'assez intemporel, c'est quelque chose qui va un peu de soi, on pourrait le formuler ainsi. Pourquoi Hortschel s'intéresse à cette question-là, et à travers ce prisme, on l'a dit au tout début, ce prisme de l'exploitation, de l'aliénation, en reprenant Marx, est-ce que c'est le caractère systématique qui l'alerte? Est-ce que c'est le caractère beaucoup plus profond, on va dire, et les risques, justement, vous l'avez dit, de dissonance possible?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que le fait de se forcer à être aimable, en fait, on n'attend pas ça de la même manière de tous les individus. Donc déjà, il y a une question de domination, d'inégalité. On a parlé de la différence homme-femme, mais ça peut être aussi... Alors elle parle de statut, des différences de classe sociale, des différences qui peuvent être très variables. Donc en fait, déjà, il y a une première chose qui est, si tout le monde n'a pas le droit d'exprimer ses émotions de la même manière, c'est qu'il y a quelque chose que la sociologie peut explorer. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, ce qui est intéressant de comprendre ici, c'est que finalement, c'est les effets que ça va avoir sur nous de devoir se forcer à suivre des règles de sentiment, et en fait la marchandisation de ces règles de sentiment. Parce que dans la vie quotidienne, finalement, se forcer à être content pour quelqu'un, se forcer à être content d'aller voir, si je reprends les enfants, mais encore à qui on dit il faut que tu sois content d'aller voir ta mamie, ça c'est des choses où ils peuvent le faire en surface, ça sera plus ou moins bien fait, mais bon. Par contre, quand on arrive dans le domaine de l'économie, vous l'avez dit en début d'émission, si on veut que ce soit fait correctement, il va falloir le faire en profondeur. Et c'est quoi le problème? Ça va être celui de la dissonance. Elle qualifie ça de dissonance émotionnelle. Et donc, en fait, quand on a une dissonance émotionnelle entre ce qu'on ressent et puis la manière dont la société attend qu'on le ressent, et surtout la manière dont notre patron nous paye pour qu'on le ressente, là, ça devient problématique. Et c'est là qu'on arrive à ce que Hortschel qualifie de risque d'aliénation. Et elle met ça en lien avec le développement du capitalisme à cette période-là, et qui est tout à fait valable aujourd'hui, à savoir que finalement, quand on est hôtesse de l'air et qu'on doit gérer, 10 passagers, on a le temps d'être vraiment de bonne humeur, de s'en occuper, etc. Quand on doit gérer d'un seul coup 50 passagers, parce qu'on a décidé de réduire les coûts et que donc il faut être toujours aussi aimable avec des personnes qui sont moins bien traitées par la compagnie aérienne, mais c'est sur nous que ça retombe, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, on a des cas de dissonance et donc de risque de burn-out notamment.
Il y a des risques de dissonance et de burn-out, et on le comprend, en fait, l'entreprise agit comme un espèce de voile, ou en tout cas tente de s'immiscer entre la personne et les sentiments que cette personne va exprimer. La meilleure façon d'anticiper le risque, et en tout cas la meilleure façon de façonner aussi ces salariés que sont les hôtesses de l'air, c'est encore de les former.
Jacqueline Kiravizik et Nicole Boucher nous accueillent à bord du Boeing qui, dans quelques instants, va s'envoler vers les Antilles. Elles doivent éventuellement oublier soucis et fatigues pour recevoir au mieux les passagers sensibles à une présence aimable, souriante, légèrement sophistiquée même, une présence rassurante parfois.
Vous arrive-t-il de penser que l'avion comporte quelques risques?
Non, pas du tout. Je suis même assez surprise parfois de constater une petite inquiétude chez les passagers qui pour moi n'est pas justifiée, et je pense qu'elle disparaît très vite d'ailleurs.
Les hôtesses de l'air doivent avoir 21 ans au moins, 30 ans au plus, une bonne présentation, une coiffure et un maquillage soigné, du savoir-vivre, une bonne culture générale, une ligne élancée s'accordant bien avec l'uniforme de la compagnie qui garde un prestige certain. Elles doivent donc avoir des qualités qui ne sont pas celles d'une simple serveuse volante, plutôt celles d'une maîtresse de maison charmante et distinguée. C'est ainsi que se voit d'ailleurs Jacqueline Kiravizik, qui aime beaucoup ce métier particulier, exigeant une bonne résistance physique, mais permettant d'élargir considérablement le cadre bien souvent étriqué de la vie quotidienne.
Today, some airlines go out of their way to please you. At PSA, we never lost sight of what an airline should be. So at PSA, we give you more planes and less fancies. We give you low fares, not fanfares. PSA, our smiles aren't just painted on.
Voilà, une archive de 1964 suivie d'une publicité pour la Pacific Southwest Airlines qui stipule très clairement que nos sourires ne sont pas que de façade. Un slogan qui a beaucoup intéressé Harley Hochschild, dont on parle aujourd'hui dans cette émission d'Entendez-vous l'écho consacrée à cette sociologue américaine. Cécile Thomé, on l'entendait notamment dans l'archive, les hôtesses sont tenues de respecter certaines normes, certains codes, voire certains critères physiques, hein, très, très concrètement. Donc il n'y a pas vraiment de formation pour. Et donc on le voit entre professionnalisme et normes de genre, les frontières sont très très fines. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que dans certains secteurs, il s'agit de profiter, dans le sens vraiment faire du profit de ces normes? Est-ce que c'est cela que nous dit Hochschild?
Oui, c'est une des choses importantes qu'elle dit. C'est intéressant parce que Hochschild, elle s'est intéressée donc, au genre, je vais y revenir, et puis elle avait essayé aussi d'émettre dans ce livre quelques hypothèses en disant les classes moyennes, finalement, qui sont plus habituées à gérer leurs émotions, elles sont plus susceptibles de voir celles-ci marchandisées, alors que les classes populaires, où il y a plus de pulsions, où, voilà, c'est moins le cas. Ça, c'est quelque chose qui est complètement faux aujourd'hui, on est 40 ans plus tard, parce que finalement, on voit que les métiers des classes populaires, c'est devenu des métiers de service aussi. C'était pas le cas il y a 40 ans. Par contre, sur le genre, c'est tout à fait juste. Ça veut dire tirer profit pour ces entreprises à la fois du fait que les femmes ont plus l'habitude de gérer leurs émotions, tirer profit du fait que les femmes ont plus de difficultés à tirer profit de leurs autres qualités, de leurs diplômes, de leur, etc. Donc en fait, s'appuyer sur ces choses-là. Et ça, Hochschild va très très bien le voir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois ce versant qui est vraiment le côté public, et donc, dont on a pas mal parlé autour de la sociologie du travail, mais c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver quand on s'intéresse à la vie privée, dans les prolongements qui ont été d'abord moins importants en tout cas de son œuvre au niveau vie privée, parce que la première partie de son livre, la partie qui construit ça théoriquement, c'est vraiment sur la vie privée, et ensuite on passe à l'aspect exploitation, aliénation, etc. Moi j'ai travaillé en sociologie de la sexualité, et on voit que là aussi on attend des femmes en matière de désir sexuel, une forme de préparation pour être prête pour la relation sexuelle à la fois physiquement, et on retrouve des choses épilées avec de la lingerie, une contraception, etc. Et en même temps, on attend que ce soit elle qui fasse le premier pas. Les journées féminines disent « Comment rallumer le désir, c'est à vous de le faire ». Donc on a là aussi toute cette gestion des sentiments du côté privé que Hochschild avait entrevu et dont on voit des prolongements aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, en termes de sexualité, les femmes sont les gardiennes de la spontanéité. Pour qu'un rapport soit spontané, il faut qu'elles l'aient préparé. Et dans le domaine plutôt public, elles vont être les gardiennes de l'authenticité. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est la conclusion d'Hochschild dans ce livre. C'est de dire, dans notre société aujourd'hui, qu'est-ce qui va commencer à avoir de plus en plus de valeur? C'est la vraie relation. C'est l'authenticité. C'est le fait de ne pas avoir l'impression que face à nous, on a un robot. Et à une période où on est aujourd'hui en pleine explosion de l'intelligence artificielle, on voit à quel point c'était précurseur de choses qui persistent aujourd'hui.
Gwenaëlle Mincent, c'est intéressant, ce décalage finalement, ce report de ce qui crée la valeur au sein de l'entreprise, finalement ce n'est plus tant, en tout cas plus uniquement la tâche effectuée en tant que telle, que le fait même de porter sur son visage, et c'est toute la notion du sourire, les valeurs de l'entreprise, ça, c'est, en fait le message a une valeur en tant que telle, et en fait les employés se transforment peu ou prou en hommes et femmes sandwich, c'est là aussi la bascule qu'il y a à ce moment-là. C'est cette idée de valeur économique qui est personnifiée aussi par les employés.
Effectivement.
Après, ce qui ne veut pas forcément dire non plus que ça ne va pas sans une certaine forme de conflit aussi, Gwenaëlle Mincent, parce qu'on se dit que s'il y a une forme de mise de masque qui serait ce fameux sourire le plus authentique possible, on l'a bien compris. Il y a encore une fois cette idée du conflit entre les valeurs, et ça, Harley Hochschild, elle le dit également, et notamment dans des situations très précises, ou dans le cas des hôtesses de l'air, où il peut y avoir des comportements déplacés, des insultes, de la colère, etc. C'est cette gestion-là aussi des affects de toutes parts qui compte, peut-être Cécile Thomé, sur cette gestion de situations qui sortiraient de la normalité.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que ça sort de la normalité pour les femmes. Parce qu'en fait, quand elle étudie les hommes, Harley Hirschfeld, elle va étudier qui ? Elle va étudier les hommes qui vont récupérer les dettes. Donc là, on est plutôt sur des hommes au téléphone qui vont appeler les gens en disant « mais c'est n'importe quoi, il faut nous rendre l'argent maintenant ». Et donc, deux, on attend aussi une gestion de leurs émotions, mais qui va vers la colère. Et donc là, il y a toute une formation sur le fait de « ils vont essayer de vous faire pitié, mais il ne faut pas avoir pitié, vraiment, voilà, ils nous doivent de l'argent ». Donc on voit que là aussi, le genre est vraiment central là-dessus. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup, on s'est beaucoup centré sur cette idée justement de service, de sourire, etc. Alors que cette gestion des émotions, elle peut vraiment se faire de manière très diverse. Et je pense que c'est le cas dans les policiers qu'a étudié Gwenaëlle, parce qu'il n'y a pas juste être sympa. En fait, il y a aussi des moments où j'imagine que c'est autre chose.
Alors on va tout à fait revenir sur cette gestion masculine aussi du potentiel conflit entre, on l'a déjà un peu évoqué, normes juridiques et ce qu'on voit véritablement sur le terrain. On va voir comment tout cela, on va dire, essaie de se coordonner. En tout cas, on le comprend, se plier aux normes est un travail à la fois privé et économique et il n'est pas sans risque. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, eh bien, de garder le sourire. Prenez le temps de sourire, passez du côté du soleil, un titre interprété par Marika Green et Pia Kazan, ici en 1972. Vous êtes bien à l'écoute de France Culture. Entendez-vous l'écho se penche sur les travaux pionniers de la sociologue Harley Hirschfeld, qui dans les années 80 s'est intéressée à la façon dont sont fabriqués nos sentiments et surtout qui en tirait profit, en observant notamment ce qu'on attendait des hôtesses de l'air. Des hôtesses de l'air, mais pas que. Elle va étendre son champ d'investigation pour comprendre ce qu'il se passe lorsque nos émotions débordent le cadre professionnel et juridique.
Alors ? Super, c'est bien, quoi. Je veux dire, elle est très belle. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est intéressant pour moi.
Hein. Le truc, c'est que je m'en sers, moi.
D'accord, donc c'est avec elle que vous collectionnez les PV, quoi. Mmh. Voilà. Je me disais que ce genre de véhicule, vous aurez peut-être intérêt à le vendre vous-même. Hein. Je devrais pas vous dire ça, mais...
Ça veut dire ?
J'imagine que si vous la vendez par vous-même, vous en tirez un meilleur prix que si moi je la saisis pour la mettre aux enchères.
Hein. Vous faites une faveur, hein ?
En fait, tant que je ne l'ai pas saisie, elle vous appartient encore. Si vous la vendez pour payer vos dettes, à ce moment-là, c'est dans l'intérêt du créancier. Hein.
Ouais, mais il faudrait faire quoi pour ça ?
Passer une annonce. Dans un journal.
Vous pouvez pas le faire, vous ?
Pardon, je... Non.
Ouais. Vous avez tous les renseignements, mais je suis pas très, très doué pour faire tout ça, moi je saurais pas, mais vous avez pris des photos, vous avez tous les renseignements, c'est...
Non, moi, bah, faire. Non, moi je suis huissier, je vous laisse un délai, c'est déjà bien.
Oh, elle est pratiquement faite, là, l'annonce.
Voilà, un décalage qui est particulièrement prégnant lorsqu'on est censé incarner l'ordre et la loi, et cela vaut donc aussi pour les hommes. C'est le cas de maître Grégory Morel, huissier, qui a du mal à saisir le véhicule d'un individu endetté dans le film L'air de rien, sorti en 2012. Cécile Thomé, juste une petite parenthèse, on était quand même sur les hôtesses de l'air. On l'a dit, Harley Hirschfeld va aussi s'intéresser aux agents de recouvrement. On a un peu l'impression qu'il y a un énorme écart entre ces deux professions-là. Qu'est-ce qui l'intéresse chez les agents de recouvrement ?
Chez les agents de recouvrement, ça va justement être l'idée de dire que cette gestion des sentiments, elle est pas seulement c'est pas seulement une gestion positive des sentiments, c'est pas seulement se forcer à mettre l'autre en valeur, à être de bonne humeur, mais ça peut aussi être quelque chose de différent, sachant qu'en fait, c'est des sentiments qui sont utilisés par une entreprise qui nous embauche. Donc finalement, ils deviennent la possession de l'entreprise, et c'est là celle-là qu'elle parle d'aliénation aussi, parce que si l'entreprise vous dit d'être poli au téléphone avec quelqu'un, c'est pas la même chose que si elle vous dit d'être très sévère, voire insultant, pour obtenir le fruit de l'appel. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle va prendre deux cas tout à fait opposés, et ce qui va être intéressant après, c'est qu'il va y avoir énormément d'études dans des cas qui sont beaucoup plus nuancés. Et donc là, on pose vraiment les bases de quelque chose, avec deux extrêmes, et on va pouvoir voir les nuances ensuite dans les travaux postérieurs.
Gwenaëlle Mincent, dans quelle mesure les policiers que vous avez pu rencontrer, avec qui vous avez dialogué aussi sur le terrain, ont conscience qu'il s'agit là, comme on le disait à l'instant, de sentiments utilisés par une entreprise qui nous embauche? Dans quelle mesure ils ont conscience qu'ils doivent aussi quelque part incarner certaines normes, notamment de virilité et d'autorité, pour bien faire leur travail? Dans quelle mesure ont-ils conscience que c'est ce qu'on attend d'eux finalement?
Alors, ils en ont conscience puisque c'est quelque chose qui est encadré, pris en charge, géré collectivement. Alors là, on n'est pas dans le cadre d'une entreprise capitaliste, on est dans le cadre de la police, d'une administration. Mais par contre, et c'est ce que permettait de voir le terrain au temps long dans ces services de police, en fait, on voit qu'il y a une prise en charge et une formation des nouveaux qui arrivent dans ces services pour apprendre à interagir, apprendre à gagner la confiance des personnes qu'on auditionne, apprendre à faire peur à ceux auxquels il faut faire peur pour les faire avouer. On va voir que justement, on va reprocher à certains qui sont trop timorés, justement, il faut y aller, il faut entretenir les contacts, il faut pas être aussi timide. Donc ça, c'est une première manière, c'est de voir les nouveaux qui arrivent dans ces services et de voir ce qu'on leur dit de faire. Une deuxième manière, c'est de s'entretenir avec les chefs d'équipe, etc., et de voir comment justement ils vont enjoindre certains des policiers, des policières qui sont dans leurs équipes à faire certaines choses, à être plus expansifs, au contraire à être plus... ou au contraire à être plus sur la réserve, à entretenir des relations avec les informateurs, y compris avec des informatrices, y compris dans des situations qui pourraient nous sembler absurdes. Par exemple, une prostituée qui serait placée en centre de rétention administratif parce qu'elle est en situation régulière. On va par exemple enjoindre les policiers à aller les voir dans ces centres de rétention parce qu'il faut entretenir le lien, parce que peut-être elle donnera une affaire par la suite. Donc voilà, des situations qui sont assez contre-intuitives. Donc ça permet d'être repéré dans la formation des nouveaux arrivant à l'échelle de ce que gère en fait la hiérarchie intermédiaire. C'est aussi possible de le repérer en regardant les sanctions collectives qu'il y a par rapport à ceux qui ne jouent pas le jeu. En fait, ça, c'est une bonne manière de voir ceux qu'on estime être des bons flics et ceux qu'on estime être des mauvais flics. Et en gros, une des choses vraiment, c'est le bon flic, il sait recruter ses indics, il sait obtenir des aveux, il y va, il n'a pas peur d'aller au contact. Et du coup,
quand vous dites que ceux qui ne jouent pas le jeu, c'est dans quel sens? Dans le sens d'une trop grande flexibilité, on va dire, d'une trop grande place laissée aux émotions, ou ceux qui...
Plutôt l'inverse, en fait. C'est-à-dire ceux qui vont estimer que les enquêtes vont arriver par des plaintes, par des saisines du procureur, etc., ou par d'autres voies, et qui vont pas aller chercher de l'info, comme on dit, dans ces services de police, et qui vont, du coup, être dans une posture où on pourrait finalement imaginer être celle du policier, de plus grande réserve, de plus grande retenue, de moindre investissement, etc., parce que ça les intéresse pas ou parce qu'ils n'ont pas compris que c'était une partie intrinsèque de ce qui était attendu d'eux par l'organisation. Donc en fait, c'est ces différentes manières qui permettent de révéler, mettre en valeur le fait qu'il y a un travail sur des émotions qui sont plutôt pensées au masculin, donc moi ce que j'appelle une performance de virilité policière, qui sont souvent des émotions négatives, comme le disait Cécile, c'est-à-dire on joue plus sur la colère qu'on est dans l'empathie ou le care, mais ça c'est effectivement quelque chose qui est organisé par l'institution.
Quelque chose d'organisé par l'institution et puis par la société aussi tout entière dans le cas des femmes.
Vos parents ont choisi de vous inscrire à l'institution ménagère Van der Beek et je les en félicite. Pendant les deux années que nous allons passer ensemble, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de vous inculquer les 7 piliers qui feront de vous la perle des ménagères. Un rêve pour vos futurs époux. La bonne épouse est avant tout la compagne de son mari, ce qui suppose oubli de soi, compréhension et bonne humeur. Entre vous et moi, si les épouses et les mères savaient mieux être épouses et mères, il n'y aurait pas tant de foyers désunis, ni d'enfants malheureux, mal élevés et encore moins vicieux. Les familles seraient prospères, la société stable et le monde bien meilleur. Première levée, dernière couchée, la bonne ménagère ne se laisse jamais aller. Sa coquetterie, son amabilité, sa bonne tenue étant les garants de ce qu'on appelle l'esprit de famille. L'expérience vous apprendra qu'il en va de la bonne santé physique et morale de toute la famille.
Et voilà, repose sur les épaules des femmes la bonne santé physique et morale de toute la famille, mais on pourrait dire aussi de toute la société, voire même tout le tissu économique. C'est Harley Orchall qui nous a montré qu'il y a toute une ingénierie sociale, pour reprendre ces termes, qui se met en place entre sentiments et profits que l'on peut en tirer. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui grâce à vous, Gwenaëlle Mincent, et à vous, Cécile Thomé. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.
Merci.